Le chien, meilleur ami de l'homme. L'être humain a domestiqué le loup il y a 15 000 ans pour la chasse au paléolithique, alors qu'il était encore nomade, et ce, avant même l'invention de l'agriculture. Le chien devient alors la première espèce domestiquée par l'homme. En étudiant des spécimens anciens de chiens européens et asiatiques, les chercheurs de l'École Normale Supérieure de Lyon, du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Institut de Génétique et de Développement de Rennes révèlent que contrairement à leurs ancêtres, le loup, les chiens ont acquis la capacité de digérer l'amidon à la suite de la duplication du gène amide B il y a au moins 7000 ans, grâce à leur contact fort avec l'être humain. Cette aptitude coïncide avec une étape ancienne du développement de l'agriculture et reflète une adaptation à un changement alimentaire. Publié le 9 novembre 2016 dans la revue Royal Society Open Science, constitue un exemple de coévolution et reflète l'influence de la culture humaine sur le génome des premiers chiens. Christophe Hitt, ingénieur de recherche au CNRS, a accepté de répondre à nos questions.
Le Labomatique,
l'émission scientifique.
Qu'est-ce que le gène amide B ?
C'est un gène qui est responsable d'une enzyme qui va dégrader l'amidon. Et qu'est-ce que l'amidon ? C'est un sucre, un polysaccharide des végétaux supérieurs, et que l'on retrouve notamment dans les céréales, dans le riz. Donc c'est vraiment un composant de l'agriculture.
Si la domestication du chien a débuté il y a 15 000 ans et que la modification du génome des chiens a eu lieu il y a 7 000 ans, quel est le rapport avec l'agriculture ?
Voilà, donc comme vous le faites remarquer très justement, la domestication du chien est très ancienne. Les dates varient autour de 15 000 ans, même si c'est encore à débattre. Ça va dépendre également des futures découvertes des restes archéologiques, etc. Toujours est-il qu'actuellement, la date autour de 15 000 ans fait assez consensus. Mais le chien donc a été domestiqué dès 15 000 ans. Et au cours des millénaires qui ont suivi, l'homme n'était pas encore sédentarisé. Et qu'est-ce qu'il se passe au cours de l'évolution de l'humanité ? Autour de 7000 ans, arrive la période que l'on appelle le néolithique, qui est une sorte de révolution culturelle pour les sociétés humaines, c'est-à-dire qu'elles se sédentarisent et qu'elles développent l'agriculture. Et ça correspond donc à cette découverte que nous avons réalisée sur le génome du chien. Cette date, en tout cas, coïncide avec l'identification de l'expansion de ce gène sur le génome du chien.
Est-ce qu'il y a un parallèle, justement, avec l'être humain, cette multiplication de gènes ?
Voilà, alors c'est la conclusion de notre étude. Nous identifions une expansion de ce gène qui va donc permettre aux animaux de digérer l'amidon. Car avec une seule copie, la digestion n'est pas très efficace. Avec plusieurs copies de ce gène, la digestion de l'amidon est efficace. Nous faisons le parallèle avec justement la sédentarisation de l'homme qui développe l'agriculture. Ce composé amidon de l'agriculture constitue une nouvelle source de nourriture pour les chiens qui sont donc domestiqués depuis de nombreux millénaires. L'hypothèse que nous avançons dans cette étude est que les animaux ont maintenant accès aux nourriture ou reste de nourriture humaine et sont donc sélectionnés pour digérer cette nouvelle source de nourriture pour le chien, qui est donc une nourriture qui devient plus variée, carnivore, herbivore, etc.
Est-ce qu'on peut retrouver la même multiplication de ce gène chez d'autres animaux qui ont été domestiqués relativement tôt dans la civilisation ?
Ah, c'est une bonne question, parce que l'ensemble des génomes n'a pas été encore investigué pour ce cas de figure, mais chez l'homme c'est le cas. Cette enzyme, donc amylase, qui n'est pas tout à fait la même entre l'homme et le chien, est également retrouvée en expansion du nombre de copies qui nous permet, à nous, les hommes, de digérer l'amidon. Donc là, on voit bien une forme de coévolution entre l'évolution de l'homme et comment l'évolution de l'homme, par le développement de l'agriculture, a influencé l'évolution du génome du chien. Donc effectivement, plusieurs espèces ont, de manière parallèle, développé cette adaptation.
Est-ce qu'on sait déjà quelle sera la prochaine étape justement de cette coévolution ou pas ?
Bien malin celui qui saurait vous répondre par l'affirmative. Dans cette étude, Nous nous sommes intéressés au cas particulier donc de cette enzyme qui dégrade l'amidon. Cette étude ouvre de nouvelles perspectives sur quels sont les autres gènes qui effectivement ont évolué en relation avec la domestication du chien. Par exemple, il existe des parties visibles qui ont évolué, celles que l'on retrouve dans les restes archéologiques, la forme du crâne, la forme du museau, la forme des mandibules, mais il existe de nombreuses traces non visibles, notamment le métabolisme des graisses, le métabolisme de la digestion des polysaccharides, mais également peut-être les interactions cognitives entre l'homme et le chien. Donc ça ouvre de nombreuses perspectives sur la possibilité d'analyser des composantes génétiques qui auraient pu évoluer au cours de la domestication.
Back to the block, Snoop Doggy Dogg, Monkey, yeah, the doc went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but don't lose your grip. Nine trizz ain't the years there for me to fuck up shit. So I ain't holding nothing back, and motherfucker, I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back.
Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangsta.
What's my motherfucking
shit
name? To the wild, creeping and crawling, Yiggy, yes, yo, then Snoop Doggy Dogg in the motherfucking house like every day. Dropping shit with my nigga, Mr. Dr. Dre. Like I said, niggas can't fuck with this, and niggas can't fuck with that shit that I drop, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking top. Tick tock, now with a Glock, just some nuts in the cock. Robbing motherfuckers, then I kill them blood cops. Then I step through the fog and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, 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 oh. Your hands in the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch it stink.
Why?
Cause doggies on the gang, my bank goes on swole. My shit's on hit legit, now I'm on parole. Stroke with the dog pound right behind me, and up in your bitch is where you might find me playing that G-bang. She want the nigga with the biggest nuts, and guess what? It's I and I am him, slim with the tilted brim. What's my motherfucking name?
La multiplication des races des chiens a eu lieu environ il y a 2 siècles, par là. Est-ce que, justement, le fait que le chien soit nourri par l'homme, etc., a influencé sur, justement, ces différences de races assez flagrantes, par exemple, qu'on peut avoir, je sais pas moi, entre le chihuahua et le Saint-Bernard, par exemple, physique ou comportemental?
Donc effectivement, l'explosion du nombre de races modernes, telles qu'on les connaît aujourd'hui, date, vous avez raison, de ces quelques derniers siècles. Penser que l'alimentation a eu un rôle déterminant dans la multiplication des races n'est pas la bonne raison, parce que ces races ont été vraiment constituées sur des aptitudes particulières, la chasse, la garde, etc. Puis encore plus récemment, sur des morphologies plus ou moins contrastées, plus ou moins intéressantes. Donc on a fait des races de chiens de petit format pour des raisons de compagnie, on a fait des races de chiens de grand format pour des raisons de chasse ou de garde. Mais je ne dirais pas que c'est l'alimentation qui a été déterminante dans la formation des races, mais ce sont plutôt les pratiques de sélection, de prendre 2 individus de petite taille, d'une certaine couleur, avec une certaine morphologie, en les croisant entre eux, qui va reproduire un format que l'on va chercher ensuite à homogénéiser et produire donc ce que l'on appelle une race de chien.
C'est justement en fait peut-être la raison pour laquelle, par exemple, certaines races de chiens sont associées à des régions géographiques.
Oui, les races de chiens effectivement sont un petit peu différentes si on parle de l'Europe occidentale, de l'Asie, les États-Unis. Donc, comme vous dites, les races de chiens divergent en fonction des régions géographiques. Et parfois, les standards pour une race comme le Labrador ou le berger allemand varient également un petit peu en fonction des pays, en fonction des zones géographiques. Au-delà de s'intéresser à des gènes particuliers qui ont modulé le génome du chien depuis sa domestication, nous travaillons également sur l'origine de la domestication, c'est-à-dire où, quand et comment le chien a été domestiqué. Donc il faut bien rappeler que le chien a été domestiqué de son ancêtre le loup, qui vivait sur la terre, sur de vastes zones géographiques développées. Et dans une étude précédente à cette analyse du gène qui dégrade l'amidon, nous avons identifié que le chien a sans doute été domestiqué à plusieurs reprises et à plusieurs endroits, et notamment au moins à 2 endroits distincts du globe, une origine est-asiatique et une origine européenne. Donc ça a fait l'objet de nos précédents travaux. Et on n'est sans doute pas encore au bout de nos découvertes. Il est possible qu'il y ait eu également d'autres foyers de domestication issus de différents foyers de populations sauvages de loups. Ce que nous avons identifié également, c'est que certes, il y a eu plusieurs foyers de domestication, mais nous avons vu que depuis 5-6 000 ans, c'est le foyer de domestication de l'Asie du Sud-Est qui progressivement, avec les migrations humaines, a remplacé les autres foyers de domestication. Donc tous les chiens modernes que nous connaissons actuellement, maintenant dérivent de ce pool de domestication de l'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est une étude assez récente qui propose ce scénario-là et qui ne demande qu'à être confirmée ou débattue.
Cette étude est basée sur la domestication des canidés en Europe et en Asie. Est-ce qu'on a retrouvé des traces de domestication de canidés ailleurs, chez des civilisations anciennes, en Égypte ou au Moyen-Orient par exemple ?
À ma connaissance, nous n'avons pas de preuves expérimentales ou de traces archéologiques de domestication de ces autres espèces. Il faut bien dire que le chacal, le coyote, le chien, le loup constituent encore 4 sous-espèces qui sont interfécondes, qui dans la nature pourraient se reproduire entre elles, même si elles ont chacune des territoires écologiques différents, qui fait que naturellement elles ne sont pas amenées à se reproduire, mais elles sont encore fertiles. Donc on a eu vraiment un ancêtre commun et toutes ces sous-espèces ont divergé.
Est-ce que certaines races de chiens concentrent des maladies génétiques ?
Donc, comme on le disait tout à l'heure, les modes de sélection des différentes races de chiens ont entraîné des conséquences qui sont tout à fait dommageables pour les races de chiens, c'est-à-dire qu'elles concentrent désormais des maladies génétiques. Et on le sait, en tout cas dans la communauté scientifique, que les races de chiens concentrent des maladies génétiques extrêmement proches de ce que nous avons les hommes, comme les myopathies, les épilepsies, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Donc, ces observations nous font utiliser, ou en tout cas nous utilisons le modèle canin comme un bon modèle de maladie génétique chez l'homme.
Est-ce que les chiens seraient amenés à avoir du diabète par exemple ?
Oui, alors certaines races de chiens vont avoir ce type de maladie métabolique et du coup constituent une bonne population à analyser. Dans le sens où, une fois que l'on a trouvé l'anomalie ou la cause génétique d'une maladie métabolique comme le diabète ou d'autres, ensuite nous pouvons tester cette anomalie génétique sur les populations humaines. Comme les signes cliniques des maladies sont proches, sont semblables, on peut raisonnablement penser que les causes génétiques seront identiques ou en tout cas proches.
Est-ce qu'on a un exemple de maladie qui aurait été d'abord découverte chez le chien, puis en fait découverte après chez l'homme, justement de par leur même mode de vie, entre guillemets?
Alors oui, alors au laboratoire, nous utilisons beaucoup le chien comme un modèle pertinent pour les maladies génétiques. Et nous avons identifié avec ma collègue Catherine André récemment un gène responsable d'une pathologie dermatologique chez le Golden Retriever et qui s'est avéré avoir la même cause génétique que les mêmes pathologies dermatologiques chez l'homme. Donc en ce sens, le modèle canin a été extrêmement utile pour faire avancer plus rapidement la recherche biomédicale chez l'homme.
Et c'était quoi cette origine ?
Alors, il s'agissait d'un gène impliqué dans le métabolisme des lipides, qui dérégulait le métabolisme des lipides et qui provoquait donc des maladies de la peau plus ou moins graves.
Qu'est-ce que l'archéozoologie et la paléogénétique sur les chiens vont nous apprendre bientôt ?
Les deux domaines sont toujours très, pertinents pour la recherche, que ce soit l'analyse de l'évolution du chien depuis sa domestication et l'analyse des races actuelles pour leurs différentes aptitudes, susceptibilités aux maladies, mais également un peu plus, peut-être pour un futur proche, l'analyse des aptitudes cognitives du chien, les interactions qu'il a su développer avec l'homme depuis ses milliers d'années de domestication. C'est un des rares animaux à avoir su développer des interactions fortes avec l'être humain. L'interaction dans le regard, dans le langage, dans l'ordre, etc. Et peu d'animaux domestiqués ont un niveau d'interaction aussi proche avec l'homme. Et donc ça, c'est encore de vastes champs à explorer pour la biologie.
Justement, en parlant de biologie, cette étude, elle regroupe plusieurs domaines différents scientifiques. Alors déjà, quels sont ces domaines qui ont été mis à contribution dans cette étude, et est-ce que ça arrive assez souvent justement qu'on mélange différents domaines pour avoir des résultats comme ça d'études?
L'étude de la domestication du chien, effectivement, est une approche interdisciplinaire. En l'occurrence, elle réunit les collègues archéozoologues, qui sont donc les spécialistes pour trouver et identifier les restes archéologiques. Elle réunit les paléogénéticiens, qui sont donc spécialistes de la génétique des restes de l'ADN dit ancien, de l'ADN fossile, et les biologistes et la bioinformatique pour maintenant traiter les données génétiques à l'aide de l'informatique. L'interdisciplinarité est très souvent essentielle pour aborder une question sous divers angles, pour être complémentaire. Les uns ne pourraient pas travailler sans l'apport des autres, les connaissances des uns ne permettent pas d'aboutir sans les connaissances des autres. Donc depuis de nombreuses années, la recherche est un bel exemple d'interaction entre disciplines. Oui. Et ça ne fait qu'augmenter de réunir des disciplines auparavant séparées, telles que la physique, la biologie, la chimie, la biologie, l'informatique, la biologie, l'archéozoologie. Donc effectivement, il y a une interdisciplinarité qui s'est mise en place ces dernières années et qui a prouvé donc son efficacité.
Donc c'est pas plus compliqué justement de mettre plusieurs disciplines ensemble, parce qu'on multiplie les connaissances, mais du coup on multiplie aussi peut-être les hypothèses, et finalement en fait c'est beaucoup plus, on multiplie aussi l'efficacité au fait au final.
Dans un premier temps, effectivement, réunir les disciplines fait rapprocher des gens, des chercheurs qui n'ont pas les mêmes connaissances, n'ont pas le même vocabulaire, etc. Donc il y a effectivement, vous avez raison, une période de rapprochement entre les disciplines pour bien comprendre les problématiques des uns et des autres. Dire que ça rend plus complexe, ou en tout cas plus difficile d'élaborer des hypothèses, non, je ne suis pas d'accord. Une fois que les disciplines travaillent bien ensemble et que chacune a compris la problématique de l'autre, je pense qu'au contraire, on a une vision à la fois plus globale de la question que les chercheurs se posent, et donc des réponses plus précises qui vont en sortir. Donc je pense que l'interdisciplinarité passé la période de la réunion, de l'accord entre les disciplines, va permettre justement d'élaborer et des questions et des solutions plus précises. L'apport maintenant des sciences tout à fait actuelles telles que la génomique, l'informatique, les big data qui maintenant traitent également, enfin les big data ou les données en grande dimension sont produits par la biologie maintenant, dans le sens où on séquence les génomes, où on séquence les génomes de fossiles, où on séquence les restes archéologiques. Et donc, ces nouvelles technologies et ces nouvelles disciplines permettent sans doute de répondre à des questions qu'on ne pouvait pas aborder il y a 15 ans. Je dirais. Donc, l'apport vraiment des données de séquençage, l'apport du traitement de l'information de séquençage par l'informatique, maintenant nous permet d'envisager de pouvoir répondre à ces questions qu'auparavant on traitait avec la paléontologie, avec d'autres disciplines. Donc à mon sens, c'est une révolution scientifique que nous vivons actuellement depuis une dizaine d'années. L'accumulation des données de séquençage et la capacité de traiter ces données par l'informatique, et ça ne cesse de progresser à une vitesse grand V. Donc on a de belles perspectives devant nous pour le traitement des informations.
Lorsque l'on est ami, on partage beaucoup, et en voilà la preuve. Car si le chien est le meilleur ami de l'homme, il en est le parfait reflet de son mode de vie. Et si en 7000 ans il a vu son génome changer, quels seront les changements des 7000 prochaines années ? C'était le Labomatique, nous remercions chaleureusement Christophe Hitt pour ses explications et ses réponses.
Le Labomatique,
l'émission scientifique
si